propose dans l'Évangile selon Marc. Je lirai la fin du chapitre 15 et aussi le chapitre 16. Donc, lisons Marc, chapitre 15, à partir de verset 37, et puis nous lirons le chapitre 16. Chapitre 16, on voit Jésus va confier une mission à des incrédules, en tant que ressuscité, juste après sa résurrection, il confie une mission à des incrédules. Je ne dis pas que vous êtes incrédules, mais on l'est parfois. Alors, Marc, chapitre 15, verset 37, on voit que Jésus est cloué sur la croix, on vient de s'en souvenir. Et à partir du verset 37, lisons, Jésus poussa un grand cri et mourut. Le voile suspendu dans le sanctuaire se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. Le centurion, donc le soldat qui commandait toute une... qui se tenait en face de Jésus, vit comment il était mort et dit, « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le petit et de José, et puis Salomé. Et ces trois femmes, on va les retrouver au début du chapitre 16, après la résurrection. Verset 41, ces femmes avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également beaucoup d'autres femmes qui était monté avec lui à Jérusalem. Une petite parenthèse, je trouve tellement touchant que de voir que beaucoup de femmes accompagnaient Jésus. Beaucoup de femmes le suivaient et l'assistaient. C'est touchant. Elles avaient pris le privilège de côtoyer un homme qui était bon, qui était juste, sans ambiguïté, qui était miséricordieux, le vrai homme que la terre a porté. Le seul vrai homme. Verset 42. Le soir était déjà là. Et comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée intervint. C'était un membre respecté du Conseil suprême. Il attendait, lui aussi, la venue du règne de Dieu. Il alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta un drap de lin. Il descendit Jésus de la croix. Petite parenthèse, c'est Joseph descendit Jésus de la croix. Seulement quelques mots. Mais ces mots relatent une tâche sans doute très difficile, très longue. Exigeant sans doute un courage immense que moi j'aurais peut-être pas eu. Joseph descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Heureusement qu'il y a eu d'autres personnes qui l'ont aidé, sans doute. Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. Chapitre 16, verset 1er. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, ces trois femmes qu'on a déjà vues d'ailleurs, achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche, de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était très grande. Elles entrèrent dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite, qui portait un vêtement blanc. Elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors, s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes. Ah oui, on a chanté, il y a de quoi trembler, en pensant à la croix. Et celles qui étaient là pour voir, et qui sont allées au tombeau, mais tout portait à vraiment trembler, et à être stupéfait. Alors elles ne disent rien à personne, car elles avaient peur. Nous poursuivrons la lecture dans un moment. Le Sauveur a été seul sur la croix. Même il a pu dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et maintenant, Dieu se plaît, par le biais de son inspiration de l'Écriture, à relever l'empressement et les égards de beaucoup de personnes qui sont dévouées, qui veulent honorer le Seigneur en honorant son corps. Alors en premier lieu, c'est Joseph d'Arimathée, on l'a vu, qui a ce courage incroyable de demander à Pilate le corps de Jésus, et c'est lui qui le descend de la croix. Quel travail! Et puis il s'occupe pieusement du corps mort de Jésus, de sa mise au tombeau. Et puis au chapitre 16, au premier verset, alors c'est l'aube d'un nouveau jour, le jour de la résurrection. Et là, il y a trois femmes qui se hâtent. Elles étaient regardées de loin, là-bas, juste un peu avant la mise sur la croix. Et puis, une fois qu'il a été enterré, elles viennent pour prendre soin de son corps. Et donc, elles se hâtent vers le sépulcre. Elle avait donc sans doute accompagné Jésus, l'avait suivi, l'avait servi, comme on l'a lu au verset 40-41 du chapitre 15, avant d'assister à la douleur de cette crucifixion. Mais elles veulent accomplir un dernier service envers celui qu'elles pensent avoir perdu, définitivement. Elles apportent des aromates pour embaumer son corps. Et puis il y a heureusement un ange qui apporte la bonne nouvelle. Il est ressuscité, il n'est pas là. Et ça, c'est... Je vais lire la suite de ce chapitre. Mais la suite de ce chapitre constitue ce qu'on appelle la conclusion de l'Évangile selon Marc. Je vais lire cette conclusion qui par les théologiens appellent longue, qu'on a tous sans doute dans nos Bibles, les versets 9 à 20, qui figurent dans la plupart des éditions de Bible traditionnelles. Mais la fin de ce chapitre, il faut quand même le savoir, fait polémique parmi les théologiens, parce que pour plusieurs théologiens, il y a plusieurs hypothèses. Soit ce chapitre se terminait au verset 8 dans sa forme primitive, mais ce serait une fin abrupte quand même. Soit il y avait cette conclusion longue, celle que nous avons dans nos Bibles et qui existe dans certains manuscrits, mais pas tous. Soit il y avait une conclusion dite courte, un seul verset qui apparaît dans quelques manuscrits, mais qui sont beaucoup plus tardifs. Bon. Alors, la conclusion existe bien, on l'a dans nos Bibles. Elle est absente de deux manuscrits fondamentaux considérés comme les meilleurs pour l'établissement du texte. C'est ça qui pose problème. Cette conclusion longue n'apparaît pas dans le texte Vaticanus ni Sinaiticus. Mais cette conclusion longue est pourtant connue et citée par beaucoup d'écrivains du IIe siècle. Donc elle était vraiment connue. Cette conclusion longue soulève quelques difficultés, puisqu'il y a une rupture évidente entre le verset 8 et le verset 9. Visiblement, les théologiens s'accordent pour dire que le vocabulaire et le style de ces versets diffèrent sensiblement du reste de l'Évangile. Ce passage constitue peut-être comme une sorte d'appendice, ajouté sans doute pour compenser une fin abrupte du verset 8. On se dit, mais est-ce qu'il y aurait une autre conclusion qui a été perdue à toujours, qu'on ne connaît pas? La question est débattue. Mais enfin, cette conclusion, dite longue, que l'on va lire, enfin, résume très fidèlement les apparitions de ressuscité qu'on voit dans les autres évangiles. Et en plus, qu'on voit dans le livre des Actes. Cette conclusion fait donc autorité, et même elle a été canonique, c'est-à-dire faisant partie intégrante du Nouveau Testament. Alors, lisons en fait cette conclusion. Et c'est un texte où Christ, qui est ressuscité, apparaît à beaucoup de personnes. Donc, verset 9. Ressuscité le dimanche matin. Un dimanche comme nous, le matin, aujourd'hui. Jésus apparut. Ah, il apparaît. Tout d'abord, à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui. Ils étaient en deuil et pleuraient. Mais quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, la réaction c'est quoi? Ils ne la crurent pas. Verset 12. Ensuite, Jésus se montra. Ah, il se montre encore. Mais il est dit d'une manière différente. À deux disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ah, ces deux disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, dont on connaît le nom de un prénom que d'un, et qui allaient tout tristes rentrer chez eux dans la campagne, et qu'ils ont été rejoints par Jésus. Et Jésus s'est montré à eux d'une autre manière, d'une manière différente. Et alors ces deux disciples, verset 13, ils revinrent l'annoncer aux autres. Et la réaction, c'est quoi? Qu'ils ne les crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et de s'être obstiné à ne pas croire ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je saute au verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ce dernier verset, les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Et chose extraordinaire, et encourageante, il est dit que le Seigneur agissait. Il est au ciel, mais il agit. Avec eux, et donc avec nous. Et confirmer la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc il agit, et en plus avec puissance. Donc fin de la lecture. Dans les récits des apparitions de Jésus ressuscité dans les évangiles, donc après sa résurrection, chaque fois, on trouve trois éléments, trois constantes. La première, c'est que c'est Jésus qui prend l'initiative de se montrer. Il apparaît. Deuxième constante, Jésus se fait reconnaître. Parce qu'en fait, ce n'est pas immédiat, aussi immédiat qu'on pourrait le penser. Il se montre, il se fait reconnaître, et la troisième constante, il donne une mission. Est-ce qu'il s'est montré à chacun de nous? S'est-il fait reconnaître? Avez-vous entendu sa voix pour vous envoyer en mission? Dans ce texte, l'initiative de Jésus est bien soulignée. C'est la première constante de ses apparitions. Hein. Jésus apparut tout d'abord à Marie, verset 9. Jésus se montre d'une manière différente à deux disciples, verset 12, les disciples d'Emmaüs. Ah, il se montre d'une manière différente. C'est beau, ça. Nous ne sommes pas des robots. Et Jésus se montre d'une manière différente pour chacun de nous, pour se révéler dans sa grâce, suivant nos propres besoins, suivant nos possibilités de compréhension. Il se montre à chacun comme il la façon la plus adaptée. Et puis troisièmement, Jésus se montre aux disciples au verset 14. La deuxième constante, c'est le fait de reconnaître Jésus ou non. Alors là, dans ce texte, la reconnaissance de Jésus est effectivement présente, mais d'une manière inversée, parce qu'en fait, ils ne veulent pas le reconnaître, en quelque sorte. L'Évangile souligne par trois fois l'incrédulité des compagnons de Jésus. Ces compagnons de Jésus qui refusent de croire Marie de Magdala, verset 11. Ces compagnons de Jésus qui refusent de croire les deux disciples d'Emmaüs qui reviennent de la campagne, au verset 13. Et puis au verset 14, Jésus reproche aux 11 leur entêtement à ne pas croire ceux qui l'ont vu ressusciter. Et la troisième constante, c'est que Jésus donne une mission, nous envoie quelque part, nous donne un projet, nous donne une tâche à faire. Il s'agit de proclamer sa victoire. Et ces versets reflètent notre situation actuelle de témoin du Christ. Et avec des tensions que nous connaissons parfois dans notre vie spirituelle. Alors premièrement, par rapport à cette première constante où Jésus prend l'initiative de se montrer, dans notre vie, il peut y avoir des tensions. Est-ce que Jésus prend des initiatives pour nous rencontrer? Et peut-être que, oui, vous êtes-ils tous rencontrés une fois? Est-ce qu'il prend l'initiative de me rencontrer aujourd'hui? Est-ce qu'il croise notre route par moment? Est-ce que vous le sentez? Il croise aussi ma route. Mais parfois, quand on le croise, on croit voir le jardinier. Un étranger. Et on ne le reconnaît pas bien. Ça vous arrive de ne pas trop le reconnaître parfois? Deuxièmement, par rapport à cette deuxième constante où Jésus se fait reconnaître, il peut y avoir aussi des tensions au cœur même de notre foi, de notre espérance. Parce que lorsqu'il s'agit de rejoindre le ressuscité, non pas dans l'euphorie d'une présence sentie, là, comme évidente pour les yeux, comme autrefois pour les disciples, il l'avait, il pouvait même le toucher, et Thomas l'a même touché. Hein. Mais pour nous, c'est pour sentir sa présence humblement, quotidiennement, où nous n'avons que le témoignage des Écritures. Et on connaît la difficulté de croire sans voir. Et de ne compter que sur la parole du Maître. Troisièmement, par rapport à cette troisième constante où Jésus confie une mission, donc il se montre, il se révèle et ensuite il envoie et confie quelque chose à faire, une mission. Pour nous, il peut y avoir aussi des tensions au niveau de cette mission. Et c'est mon dernier point. Alors, à qui en effet Jésus confie-t-il le message universel de sa victoire? À qui confie-t-il un projet, une mission? À tous ceux à qui il s'est révélé comme un sauveur vivant, vainqueur de la mort, mais là qui trouve incrédule, entêté, lent à croire. Il confie une mission à des incrédules. Oui, entre guillemets, incrédules. Ce n'est pas des athées, je veux dire. Vous êtes d'accord? Pourtant, comme Pierre et Jean en acte 4, verset 20, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Parce qu'on a vu aussi en nous et on a entendu par la parole des choses. Dieu nous a parlé, donc on est convaincu. Et donc il est impossible de ne pas dire tout cela. Nous sommes porteurs d'une nouvelle bouleversante pour le monde, porteurs d'une bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Mais si nous portons cette bonne nouvelle, nous portons en même temps dans des vases d'argile. Nous portons quoi? Ben le poids de nos lenteurs. On porte le poids de nos réticences, de notre incrédulité. On porte le poids de nos misères. On porte le poids de nos craintes. Toutefois, l'amour du Christ est si fort, il est si personnel, si rédempteur, que cet amour, quelque part, nous interdit de nous laisser paralyser par notre misère. Parce que la mission, elle est là. Elle est belle, elle est urgente, elle est décisive. Et comme le dit Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 9, Dieu lui-même nous a appelés. Dieu lui-même nous a appelés à vivre dans l'union avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en plus, il est ajouté, il est fidèle à ses promesses. Et puis, nous avons lu ce dernier verset de Marc. Le Seigneur agissait avec eux. Même s'il est au ciel, il agit avec eux et par des signes, par une puissance. Alors c'est aux disciples, mais c'est aussi à nous qu'il appartient maintenant d'accomplir le service. Accomplir le service suivant quoi? Ben, suivant des instructions des versets 15 à 18 que là, on n'a pas lu. C'est vrai que ces versets-là sont que dans cette conclusion longue qui est problématique, donc on ne peut pas bâtir des doctrines théologiques que sur ces versets-là, parce que c'est quand même une certaine problématique. Mais en suivant l'exemple de Jésus, que nous voyons dans l'Écriture. Alors, on n'est pas abandonné à nos propres sources, car au verset 19, le Seigneur est vu là-haut, comme je l'ai dit, mais comme celui qui dirige le travail de chacun, qui dirige le travail des siens. Et on a chanté que Jésus était le roi serviteur, mais on peut dire qu'il est le serviteur à toujours. Il sert les siens, il agit encore aujourd'hui, à toujours. Comme ce serviteur hébreu autrefois, Deutéronome 15, il servira à toujours. Et donc le Seigneur coopère avec ses disciples et les accompagne de sa puissance. Mais nous aussi, on a à cœur comme les disciples de servir le Christ. Et on peut donc compter sur lui en l'entendant. Parce qu'il agit, même étant au ciel, et il revient. Je m'arrête.